Mafia, votre émission Info Culture, un mercredi sur deux sur Radio G. Salut les gars.
Salut.
Salut Seb.
Salut Romain.
Comment ça va?
Bah, pas mal, et vous-même? En ce beau mois de novembre qui vraiment est rayonnant au niveau du temps.
On a quelques, on a eu un aperçu très bref du soleil. Il paraît que ça va venir.
Mais on va vous apporter du soleil ce soir,
voilà.
De 19h à 20h.
Dans vos cœurs.
Restez
exactement
à l'écoute de Radio G.
Et dans vos oreilles.
Il y a Seb qui va arriver dans quelques minutes,
et
comme d'habitude.
Attendre, comme les stars.
Ah, c'est une star.
C'est ça.
Et surtout, les gars, ce soir, c'est série B, série Z.
C'est ça, on s'élève.
Les nanars, tout ce qu'on aime.
Ah.
Et oui, parce que tous les 15 jours maintenant, on fait des émissions thématiques. Hein. On va parler de NAS, de série B, de série Z. Alors, on va d'abord donner des définitions un petit peu de ces différents types de films. Et puis, on parlera de notre rapport à ces films de qualité.
C'est ça, d'une qualité relative.
Relative, mais sympathique. Et puis, bien sûr, on va citer beaucoup de films. Des films qu'on aime, des films qui nous ont surpris, des films qui nous ont parfois un peu rebutés. Parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de moyens dans les séries B et les séries Z,
mais qui gagnent à être connus.
Ils gagnent à être connus, ils nous font bien rire.
Eh oui.
Voilà. Donc ce soir, on va bien s'amuser dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
Radio qui fait le point, les gars.
Alors comme d'habitude, on va démarrer avec un morceau de musique.
Ouais, qu'est-ce que tu vas nous proposer?
Alors je vais vous proposer en fait une musique qu'on entend dans un film de Tarantino qui s'appelle Boulevard de la Mort.
Ah,
alors pourquoi?
Oh yes.
Parce que Tarantino, bon, on va pas dire qu'il fait des séries B ou des séries Z, mais il rend hommage.
Il rend hommage.
C'est un réalisateur post-moderne, comme on dit, qui fait des films un peu méta. Et donc il est tellement fan des séries B, des séries Z, qu'il leur rend hommage dans la plupart de ses films. On en reparlera avec Romain tout à l'heure.
Ouais, bien sûr.
Et en particulier dans Boulevard de la Mort, ce film avec un cascadeur qui essaye de tuer des jeunes filles avec sa voiture, incroyable. Donc on va écouter la musique du film de Jack Nitzsche, qui n'est pas le frère de Friedrich.
Ah bon?
Petit clin d'œil à Pablo.
Ok.
Tout de suite dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
101.5. Hein.
Voilà, c'était The Last Race de Jack Nitzsche, la musique de Boulevard de la Mort, Death Proof de Quentin Tarantino, un grand fan de série B, de série Z, de tous ces films d'exploitation. Aussi aux États-Unis, on parle de films d'exploitation. On va en parler toute la soirée. Je mets un petit peu de musique de fond et on va démarrer tout de suite avec une définition. Pablo, avec une question.
Ouais. Oui, une question, mais qui va donner ta définition, parce que qu'est-ce qu'une série Z et qu'est-ce qu'une série B?
C'est ça. On se pose la question.
Qu'est-ce que c'est bien produit?
Mais de toute façon, on a préparé.
C'est ça.
Dès qu'on a géré la technique, on a préparé. Alors, excusez-moi, la musique me fait rire. Alors, parce que c'est assez drôle. Les séries B, ce sont souvent de mauvais films, mais sympathiques. Voilà. Et qui parfois deviennent des films cultes. On en parlera dans la soirée.
C'est vrai.
Hein, au départ, qui sont considérés comme des films plutôt mauvais. mais très très sympa. Et comme ils sont sympas, ils ont du succès. Et comme ils ont du succès, ils deviennent cultes. Voilà, on a plein d'exemples en tête. Le premier Terminator, la guerre des étoiles, etc. Bon, on en parlera.
Ça inspire d'ailleurs souvent des deux qui sont de qualité.
Et voilà, et ensuite ça va devenir une saga.
Ouais.
Donc ça, c'est pour la série B. Et après, j'expliquerai d'où vient le terme B, etc. Parce que c'est, voilà. Alors la série Z, c'est un tout petit peu différent parce que ce sont vraiment des films nuls, mais cette fois-ci qui nous font rire, quoi. Hilarant, quoi.
Volontairement nuls, tu veux dire.
Alors, volontairement ou pas. C'est-à-dire, parfois volontairement pour vraiment faire marrer tout le monde.
Jouer la carte de l'humour à franc jeu, quoi.
Voilà. Soit involontairement parce qu'il n'y a pas de thunes.
Ouais, c'est ça. Le point commun, c'est souvent le budget. Hein.
Problème de budget. Donc là, vraiment, le film est plus que mauvais, il est nul et il est pas sympathique, il est hilarant, on est mort de rire parce que c'est vraiment tout pourri, quoi. D'accord. Ça, c'est la série Z. Alors là, il y en a des tonnes et des tonnes parce que ça coûte pas cher à produire.
Donc, des fois, les effets spéciaux comme des requins qui font à peu près tout, des requins de tête, des requins qui dans les tourbillons. Ah ouais, c'est ce genre de truc, quoi.
Il y en a plein, on va en citer pas mal. Dans tous les genres, hein, ça existe dans tous les genres, que ce soit l'horreur, la science-fiction, le western, le film de combat, il y en a plein. Tout, voilà. Et d'ailleurs, on parle souvent des États-Unis, mais aussi en France, en Espagne, en Italie. Ouais, il y en a énormément partout dans le monde. Alors, je vais m'appuyer quand même, je vais les citer sur le site Nanarland.
Une ref.
Alors, il y a Sens Critique, hein, bien sûr, Romain.
Ouais, tout à fait.
Qui est une référence.
Aussi.
Et puis, le site Nanarland, qui est vraiment excellent. Si vous ne connaissez pas, moi, je vous conseille d'aller les voir. Hein, d'aller voir le site. Ils sont aussi sur Spotify, parce qu'ils font des podcasts, hein, Nanarland.
Tout à fait.
Mais je vous conseille parce que, honnêtement. C'est de grande qualité. Alors, qu'est-ce que le terme série B, d'où vient-il ? En fait, au départ, il désignait la partie la moins noble d'un double programme. Parce qu'aux États-Unis, on avait dans les années 70-80 des doubles programmes, c'est-à-dire deux films à la suite. On voit ça d'ailleurs parfois chez Tarantino. Il aime bien faire des clins d'œil au double programme. Mmh. Donc, les distributeurs, les exploitants américains de salles, ils avaient pour habitude de proposer des films par pack de deux. Donc un film de prestige, le premier, au budget important, avec des acteurs connus, etc. Et puis un film au budget plus réduit, relevant généralement du cinéma de genre. Donc western, film d'horreur, etc. Et donc ça permettait de proposer une soirée comme ça aux spectateurs, avec deux grands films, entre guillemets, hein, et parfois des films bouche-trou. Parce qu'on avait un grand film et puis un bouche-trou. Voilà.
Oui, mais est-ce que c'était comme une première partie en fait, c'est ça ?
Non, une deuxième partie.
Ah, il venait en deuxième. Je pensais qu'il venait en premier.
Ah non, tu as le film de prestige, le film de qualité.
C'est ça.
Et la série B, c'est pour ça que ça s'appelle série B. C'est qu'en deuxième, t'as la série A et la série B. En deuxième, tu te retrouvais avec un film moins prestigieux, avec des acteurs moins connus, avec moins de budget, etc. Mais qui parfois sont devenus des films cultes.
Ouais. Voilà. Ça fait un peu penser, pour l'analogie, à la musique avec les faces A et les faces B. Souvent, en face B, il y avait des titres un peu moins prestigieux. Il y avait les hits qui étaient sur la face A. Et puis, si tu veux, tu avais la face B avec des fois vraiment des pépites, mais qui étaient destinées au départ à être une face B, quoi.
Et donc, dans les années 90, les doubles programmes s'arrêtent parce qu'il y a la VHS dans les années 80, il y a la VHS, puis dans les années 90, le DVD. Donc, ces films de série B, ils vont être distribués parfois dans les salles, mais plus souvent directement en vidéo. Directement en vidéo dans les années 90. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils sont mauvais, vraiment mauvais. Parce que quelquefois, ils sont parfois mauvais, mais quelquefois, on a de bonnes surprises.
Ouais.
C'est ça qu'on voudrait vous dire ce soir. Ouais. C'est qu'on a des spectacles attrayants, mais qui sont souvent classés dans un genre un peu péjoratif, quoi, série B. Mmh. Alors, on a pire que la série B, pour aller vite. Hein, on a la série Z. Alors là, la série Z, c'est le nanar. C'est le film vraiment fauché. Hein, voilà. On bricole. Le premier à avoir bricolé tout ça, c'est peut-être Ed Wood, hein, on en reparlera peut-être, Tim Burton lui a rendu hommage dans un film. Ouais. Donc voilà, ce sont des gens qui n'ont pas d'argent, qui rêveraient de faire un grand film, un bon film, ils bricolent des trucs avec des potes, ou ils prennent des images aussi de films documentaires qu'ils insèrent dans leur film, enfin voilà.
Et ça fait penser un peu au film qui était biopic sur Spielberg il n'y a pas si longtemps, tu sais, où... j'ai oublié le nom,
je sais pas.
Mais tu sais, je le retrouverai tout à l'heure, mais où justement on voit le gamin qui essaie justement de faire exactement ce que tu dis, c'est-à-dire d'insérer des images, de bricoler avec des petites miniatures, de faire des explosions et tout ça. Je retrouverai le nom.
Ça marche. Bon, on accueille Seb. Salut Seb. Alors attends, je monte ton micro.
Bienvenue. Salut à tout le monde. Ah. Bien sûr, la star est arrivée.
Enfin.
Et je vous ai entendu.
Mais oui, on t'attendait. On ne peut pas faire une émission sur les séries V, les séries Z, sans
Fabelman. Non, mais si.
Parce qu'il faut quand même dire que Seb est un collectionneur de DVD.
Oui, un petit peu.
Un petit peu. Donc, il va pouvoir nous parler de sa collection. Je sais qu'il a vu. Oui. Iron Sky.
Oui, tout à fait. J'ai potassé un petit peu pour cette émission.
Merci Seb.
De rien. C'est cool. Et le film, c'était The Fabelmans.
C'est ça, y est.
Ah oui, exact. Et je me souviens de l'avoir vu en plus.
Oui.
Voilà. Merci Pablo.
C'est ça.
Donc voilà, cette émission va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir tous ces films. Après la pause musicale qui va arriver tout de suite, on va parler de nous, de notre rapport à ces séries B, à ces séries Z. Et puis ensuite, on parlera des différents genres, des différents réalisateurs qui s'y sont frottés, des hommages de Tarantino ou de Tim Burton, etc., etc.
Juste une petite question pour compléter ta présentation excellente, mon cher Seb. Il est
trop aimable.
Mais oui, mais
vous avez bien dormi, mon cher.
C'était en fait... on a dit tout à l'heure qu'il y avait quand même un point commun entre les deux, série B et série Z, c'était le petit budget. Est-ce que parfois un premier film d'un réalisateur parfois est considéré comme une série B
parce que tout à fait.
Personne ne le connaît, petit budget, les producteurs ne sont pas encore là?
C'est exactement ça.
Okay.
C'est pour ça tout à l'heure que j'évoquais rapidement Terminator le premier, ou même La Guerre des Étoiles, etc., qui sont au départ des films à petit budget, dans un genre très... un peu différent, fantastique, science-fiction, etc. Mais qui n'étaient pas destinés forcément à avoir le succès qu'ils ont eu. C'est-à-dire les producteurs se disaient bon, on va toucher les ados, on va gagner un peu d'argent. Et en fait, ça fait un carton, ça devient culte. Il y a des suites, comme tu disais, ça devient des sagas. Donc au départ, c'est pas du tout prévu.
Clairement.
Et c'est ça qui est génial d'ailleurs. Parce qu'on a des surprises.
Ouais, carrément.
Et voilà. Donc quelquefois, la série B est produite comme telle, pour être une série B. Quelquefois, elle est produite et ça devient un succès. Ça devient un culte,
un film série A en fait. Quoi.
Voilà, série A, exactement.
Okay.
Alors que les séries Z deviennent rares, enfin peuvent devenir
des
cultes.
Séries A.
Mais voilà, c'est ça. Les séries Z peuvent devenir cultes dans certains milieux si t'es fan de films d'horreur ou de etc. Ça peut être hyper drôle de regarder des séries Z. Par contre, ça va pas forcément engendrer une. Alors, ça peut engendrer une saga, mais de mauvaise qualité.
Voilà, ouais, très mauvaise qualité.
Pour te donner un exemple, les Sharknado, ça sera jamais pitché par Télérama ou des choses comme ça, quoi.
Voilà. Ouais, ce sera jamais repris par un grand réalisateur qui va en faire quelque chose d'incroyable, tu vois.
Bon, ça restera toujours des requins dans des tornades. <C'est ça. rire> Ou des nazis sur la lune. Enfin, pour bref.
Ouais,
entre
voilà.
Autres. Donc, il faut pas oublier aussi en même temps que les premiers films de série B qui sont produits vraiment dans les années 30, c'est des westerns aussi en même temps.
On va parler de tous les genres. Hein. Donc, je vous propose tout de suite d'écouter la musique d'un film que j'adore de série B. C'est Dawn of the Dead. Zombie en français.
Ben ouais.
Du grand réalisateur américain. Vous le connaissez? Non?
Vous ne connaissez pas? Non.
C'est un piège, j'allais dire Carpenter, mais non.
Non. Ah oui, alors on va parler de John Carpenter.
Ah, bien sûr.
Non, c'est George Romero.
Ok.
Ah oui, mais on l'avait.
George Romero dans Bande Geek Mafia sur Radio G.
100%, c'est la radio qui fait.
Et oui les gars, c'était la musique de Zombie et ça continue. Hein. Dawn of the Dead de George Romero. Alors, comme d'habitude, on va démarrer avec notre rapport au sujet. Quel est votre rapport à ces séries B, ces séries Z? Comment vous les avez découvertes? Quel est le film qui vous a marqué, etc., etc. Qui veut commencer? D'accord, donc c'est moi. Alors attention Pablo, vas-y.
Alors parce que moi du coup, je suis très très peu calé, je vous le dis tout de suite, en série B et série Z. Mais c'est vrai que mon père, quand j'étais petit, alors petite anecdote, il m'a emmené à Paris dans des cinémas que tu décrivais un peu dans ce style. Et il m'a amené assez petit voir des westerns de Terence Hill,
Bud Spencer,
Mon nom est Trinita, on l'appelait Trinita.
Mon nom est personne.
Et je crois que j'en ai vu deux ou trois des comme ça, et on était mais alors mort de rire, et en même temps on adorait. Et oui. Alors on est d'accord que c'est de l'humour gros potache.
C'est ce qu'on aime, c'est l'idée, voilà, un peu de la convivialité dans ces films. Donc, pas très bons, quoi.
On est dans du western vraiment spaghetti, mais alors parodique au possible, et voilà, c'était très drôle, et moi c'est mes premiers westerns, voilà. C'est sympa.
Merci Pablo. Les gars,
bah moi je vais rester dans l'idée de Candide parce que clairement je suis pas un spécialiste du genre.
Et personne ici n'est spécialiste. Oui. On échange, on s'amuse,
bien sûr.
On est dans le partage,
mais
on est dans la générosité.
Effectivement, quand on fait le tri de quand on commence à consulter la liste, je me rends compte qu'effectivement j'ai vu beaucoup de ces
bien
films.
Sûr.
Et puis que ça a un parcours très intéressant parce que parfois on l'a évoqué tout à l'heure, ça a inspiré des suites savoureuses, quoi. Donc voilà, je suis particulièrement content qu'on leur rende hommage aujourd'hui.
Oui.
Ces deux lettres B et Z, on leur rende. Et de noblesse pour ces lettres-là, parce qu'elles les valent bien, tout simplement.
Ah, merci.
Et pardon, Romain, mais tu te rappelles un film que tu avais vu il y a longtemps, adolescent?
Alors, ou... tu sais, si on fait la liste un petit peu de ce qui est série, tu vois, je pense qu'on a tous vu La Nuit des Morts Vivants, Massacre à la tronçonneuse, pour ce qui est du genre de l'horreur.
Ouais,
la Guerre des Étoiles, parce que tu l'as évoqué, le premier était considéré comme une série B. Et tous les Tarantino aussi, parce que c'est en sorte d'hommage, tu l'avais dit, c'était un peu méta, mais. Et puis après, on n'a pas cité. Alors, dans la catégorie horreur, on l'avait déjà mentionné, il y en a plus de quelques-uns qu'on avait cités déjà, mais Braindead, pour ceux qui l'ont vu, ça reste mythique, quoi. Voilà, dans ce sens-là, j'ai vu pas mal de films, effectivement, à l'époque, parce que c'était des films, voilà, plus de copains, en fait. Dès que tu te marres, tu bois une bière ou n'importe, sans alcool, bien sûr. Et tu te marres parce que voilà, tu poses ton cerveau gentiment, tu lui offres une bière aussi à côté de toi, et tu te marres avec tes copains. C'est plutôt cet esprit-là, tu vois, tu parlais de ton père, il y a vraiment ce côté un peu
familial ou amical, ouais.
Ouais, c'est ça l'idée.
Alors attends Seb, excuse-moi, ouais. Vas-y.
Fais attention si tu poses ton cerveau parce que le zombie peut venir te le bouffer.
C'est hein. Ça aussi.
Brain.
Bah on va l'inviter à l'apéro.
Alors moi mon rapport avec la série B, elle est un petit peu particulière. Disons que. C'est plutôt, moi je suis rentré par la porte du western, pas mal de western, et il y a quand même pas mal de western qui font partie de la série, des
c'est
séries
clair,
B, quoi.
Les western spaghetti.
Oui, mais pas que les western spaghetti, hein, des bons vieux western américains, comme on peut dire, avec des acteurs qui sont vraiment de très très grande qualité, type Ronald Reagan par exemple. Je vous conseille, alors vous rigolez un bon moment aussi en même temps. Moi ce que j'ai toujours bien apprécié, c'est ça a été aussi ma porte d'entrée sur les films d'horreur aussi, parce que l'attaque de la moussaka géant, franchement, ah oui. je pense que ça, j'ai jamais autant aimé.
Ah, ça c'est une série Z,
c'est du Z plus, comme on peut dire. C'est on rigole bien, quoi. Moi c'est ce que j'aime bien aussi, c'est ce côté vraiment décalé, alors surtout dans les films d'horreur de série B, Z, c'est tellement décalé que on dit mais c'est pas possible, quoi. Franchement, on a osé faire un film avec ça, mais on rigole bien, quoi.
L'humour est quand même prégnant, c'est que tu le disais, moi j'ai ma douce et tendre qui me parlait de films qu'elle a vu, notamment les castors zombies ou alors une partie féminine avec des dents que je ne citerai pas ici.
Le vagin avec des dents.
Ouais, c'est ça. C'est aussi des films qui sont marrants par rapport à ce genre de trucs que tu peux voir et qui sont on le disait, des films pour se marrer. Un bon coup.
Ah oui, c'est clair. Ouais. Tu parlais de la moussaka géante, il y a les tomateuses.
Les tomateuses.
Avec Georges Clooney.
Avec Georges Clooney.
Ouais, ouais.
Les araignées géantes.
Les araignées géantes. Et il y en a eu plusieurs, des araignées géantes. Attention. Hein.
Attention. Arachnophobie.
Arachnophobie. Une nuit en enfer aussi, en même temps, de Tarantino. Moi, je le classe bien dans les séries, ouais. B parce que là, franchement, c'est tellement. Les maquillages sont tellement horribles. Tu dis, c'est pas possible aussi.
Ah bah, Tarantino, il rend tout le temps.
Ah oui.
Ces films, il les adore. Nous aussi d'ailleurs.
Bah, nous aussi, moi j'adore. Hein, j'adore.
Alors, moi c'est vrai que c'est plus les films d'horreur, en particulier John Carpenter. Vraiment, ouais. Je suis rentré par là. Moi j'ai vu Le Prince des Ténèbres, enfin tous ces films là, incroyables. Et puis ça m'a donné envie de. Parce qu'en fait, moi j'étais pas rebuté par le manque de moyens ou le petit budget, etc. Parfois je trouvais ça drôle, parfois je trouvais ça plutôt bien fait, parce qu'il y a de la musique. Finalement ça crée une ambiance, quoi.
Absolument.
Et puis moi je pense à M6, je voudrais rendre hommage à cette chaîne,
ah oui,
qui a diffusé pendant des années et des années et des années des séries B, des séries,
oui,
Z,
exact.
Américaines mais aussi françaises, hein. Faut penser à Mon Curé chez les nudistes,
c'est vrai.
Tout ça. Chez les Thaïlandaises, enfin bref. Donc oui, parce qu'on en parlera, il y a des nanars dans tous les pays du monde. Voilà. Bon, petite pause musicale, les gars, après ce petit tour d'horizon, et puis on parlera donc des différents genres qui nous plaisent. Et je vous propose d'écouter tout autre chose. Alors je reprends ma playlist, parce que j'ai ma playlist, hein, B-Movie.
Bien joué.
Voilà, on va, je vais la retrouver tout de suite. Voilà.
Et alors, qu'as-tu donc dans ton panier?
Bah, j'ai les musiques de Cowboy, par exemple.
Si ah, vous bah, allez,
oh, il y a du classique, hein. Parce qu'on parlait des, films, des films spaghetti, des western spaghetti. On a bien sûr le plus connu.
Oh yes.
Dans Bande Geek Mafia, sur
bon, la route et l'autre.
101.5.
La radio qui fait le point. Alors la musique de Ennio Morricone. Hein.
On va la laisser en fond. Le bon, la brute et le truand.
Incroyable. Et qui ouvre en fait chaque concert de Metallica.
Ah oui, aussi. Oui, c'est oui, ça. Mais ça n'a rien à voir.
Ça n'a rien à voir, mais bon, voilà, ça m'est venu comme ça.
Oui, mais c'est vrai, tu as tout à fait raison. Alors, on va parler des différents genres hein, de série B, de série Z. On a déjà commencé à en évoquer pas mal.
Quelques-uns.
Moi, je voudrais quand même qu'on revienne aux origines. Seb a commencé à en parler tout à l'heure. C'est vrai qu'on peut dire que, par exemple, Freaks, par exemple, de Todd Browning dans les années 30, c'est le début. Et moi, je pensais à Ed Wood, parce que là, vraiment, c'est vraiment fauché, avec plein de trucages un peu ratés. Et ça, c'est dans les années 60. Et puis, ça explose vraiment dans les années 70, 80. Alors là, avec la VHS... Il y a énormément de films qui sortent directement en vidéo. Mmh. Et là, on a des suites improbables parce qu'on a des premiers films, quelquefois, qui sont des séries B ou Z. Mais alors, on a surtout, quelquefois, des remakes de films connus ou des séries qui vont venir compléter. Par exemple, on pense au Freddy, on pense aux tous ces films d'horreur. Mmh. On pense même aux zombies. On parlait des zombies tout à l'heure. Enfin, en vrai, des zombies, il y en a 50 000, des films de zombies. Et ils sont tous de moins en moins bons, en fait. C'est ça qui est terrible. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Donc, il y a toute une histoire de l'exploitation de ces films et dans tous les genres. Voilà. Donc, le film d'horreur, voilà, on a démarré par là parce que ça semble le plus évident, je dirais. Ouais. Mais il y a énormément de genres. Donc, quel genre vous souhaitez mettre en avant? Dont on n'aurait pas parlé encore.
Non, c'est marrant que tu cites Freaks, parce que je n'avais pas pensé, mais c'est vrai que ça pourrait être considéré comme un des grands films précurseurs de l'horreur.
Complètement.
Et qui est absolument excellent.
Excellent. Il faut voir ce film. Vous pouvez le voir gratuitement, je pense, sur YouTube. Ça dure une heure, c'est un chef-d'œuvre. Mmh. Oui, alors, film d'horreur, ça, on en avait parlé quand on a fait l'émission sur Halloween. On en a déjà un peu parlé. Est-ce que vous voulez mettre en avant alors, les westerns, les films de kung-fu, les comédies,
parfois les films d'action.
Les films d'action, de sport,
tous les Steven Seagal, c'est quand même des sortes de séries B avec des trucs, les bruits de coups de poing qui sont exagérés. Ou surtout, moi, ce qui me plaît, c'est parfois les répliques cultes qu'il y a dans les films justement de combat.
Si je ne les fais pas sortir.
Écoutez celle-ci.
Ils vont mourir. Vous avez tous les jours des gens qui meurent. Braddock, je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule.
Excellent, je l'attendais. C'était trop bon.
Donc ça, c'est Chuck Norris hein, qui met souvent les pieds où il veut.
Ouais, et il y avait un truc notamment aussi, je me rappelle une fois sur un film comme ça d'action où il y avait de la bagarre et tout. Et c'est les bruits. Bah d'ailleurs, on parlait de Bud Spencer et Terence Hill. Il y a des bruitages qui sont aussi low cost quoi. Ça fait bam bam. Tu vois, il y a vraiment un côté.
C'est clair.
Un petit peu comics presque.
Ouais, c'est vrai.
Comment dire, Tex Avery un petit peu. côté mais en réel. Et alors là, on y va, on pète, on rote, c'est ça quoi.
Ouais, c'est vrai, c'est plus que potache. Et en l'occurrence, ouais, puis là, comme on l'a entendu là, mais il y a des répliques cultes qui nous restent. Après, quand tu vois ça avec des copains, forcément, tu te refais les vannes pendant des années. Moi, je me rappelle aussi, alors c'est de l'horreur pour le coup, mais dans Brain Dead, au nom du Seigneur, je vous botte le... Voilà.
Le postérieur.
Le postérieur.
Comme ça, ça rime.
Ça voilà. Rime. Ce genre de truc, ça nous reste, quoi, parce que c'est marrant, parce que il joue la carte de l'humour, et voilà, quoi. Mais c'est vrai que l'action, les Steven Seagal tout claqué, tout ce qui est dans cette veine-là, c'est toujours assez marrant.
Bah, les Chuck Norris,
bien sûr.
Presque culte, du coup, parce que.
Et Jean-Claude Van Damme, les gars.
Et les Jean-Claude Van Damme. Incroyable.
Les scénarios qui tiennent sur un post-it, et ça castagne, il y a des répliques.
C'est des films de vengeance.
C'est ça.
Est-ce qu'on peut dire aussi que les Karate Kid, Jackie Chan.
Si, tu peux le dire, là, ça dire,
hein. Jackie Chan, plus dans une veine comique, ouais.
Ouais, dans une veine kung-fu comique, là, ouais, carrément. Ouais, mais ouais, on avait vraiment cette
Et les gars, est-ce que vous connaissez Shaolin Soccer?
Bien sûr.
Mais pareil.
Film de combat, mais de football.
La kung-fu, ça se part.
Et alors après, tu peux décliner ça en forme dessin animé avec les Kung Fu Panda, ce genre de truc. C'est pas non plus du grand.
Pourquoi pas?
Voilà.
Après, ça devient des films de meilleure qualité. Enfin.
Ouais, clairement. Et Shaolin Soccer, moi, je vous le conseille quand même. Hein.
Ah oui, ouais,
je vous le conseille parce que franchement.
Nous, on conseille tous ces films. 2001, hein, Shaolin Soccer.
2001, et il a fait une suite aussi en même temps. Ils ont fait une suite, mais ils ont repris les mêmes acteurs. Ils ont essayé de refaire quelque chose. C'est tout aussi barré. C'est complètement barré, Shaolin Soccer.
Match un film hongkongais.
Oui, et le match de foot est improbable. Hein. C'est du Olivier Tom, puissance 10, avec des mouvements qui sont pas autorisés hein, au foot. Déjà, ça c'est pas autorisé. Il y a un autre aussi film qui est pas mal, qui est un film d'action. C'est Payback avec Mel Gibson.
Moi, je connais pas.
Ah, celui-là, il est
un film de vengeance, donc.
Oui, c'est un film de vengeance.
De vengeance.
ouais, c'est
bien. C'est bien un ange vin, celui-là.
C'est du coin.
Il est sympa, quoi. Donc là, on a Mel Gibson qui joue le rôle d'un bandit qui se fait trahir. On le sait dès le départ. Et donc, le but du jeu pour lui, ça va être de récupérer l'argent que son complice lui a piqué. Et ça se termine quand même sur une dernière phrase là, puisqu'on parlait de citations assez intéressantes. Hein, sans trop divulgâcher tout, Mel Gibson se fait attraper, se fait un petit peu torturer, massacrer les doigts de pied, comme on peut dire, un petit peu. Voilà. Et puis la dernière réplique, c'est excuse-moi d'être en retard, mais je suis tombé sur des casse-pieds. Et lui, littéralement,
il était sur des casse-pieds.
De l'humour, hein, voilà.
C'est petit budget et petit budget van aussi. Hein,
quand elle arrive, là, tu t'éclates de rire.
Il y a aussi, parce que tu parlais de Kung Fu Panda, ça me fait penser aux dessins animés. Et effectivement, moi, je pense qu'il y a des dessins animés qu'on peut classer dans cette catégorie. Moi, je pense par exemple à Ken le Survivant. Surtout avec la traduction française. Tu es déjà mort, mais tu ne le sais pas encore.
Ah ouais. Je suis dans l'école de au couteau de cuisine. Je vais te faire bobo.
C'est vrai. Ils avaient raconté qu'en fait les mecs ils faisaient n'importe quoi sur les trades. Ils se faisaient plaisir. Et ça correspondait pas du tout en plus à. Et ils prenaient une liberté. Ils racontaient des trucs de fou en fait quoi. Mais nous, quand on était gamin, ça a été assez vite interdit. On se demandait pourquoi faire des trous avec ses doigts dans des punks qui ont rien demandé.
C'est vrai qu'au départ, c'est des dessins animés pour adultes. Hein. Nous, c'était diffusé dans le Club Dorothée, mais c'était pas prévu.
C'était d'une violence incroyable. Il y avait du sang qui giclait de partout, les dents qui se cassaient, machin, le mec qui se disloquait.
Puis le résumé du mec avec la voix nasillarde.
C'était ma mute.
C'était vraiment.
Oui, c'est ça.
Donc, effectivement, on peut dire qu'il y a des dessins animés aussi de série B ou de série Z.
Ouais, clairement.
Il y a les Feebles aussi. Je sais pas si vous connaissez ça. C'est Peter Jackson.
Ah.
Donc, qui a démarré Peter Jackson en faisant vraiment des films d'horreur vraiment fauchés. Hein. Avec Brain Dead, tu parlais de ça, mais il y en a d'autres hein, qui sont terribles. Et les Feebles, en fait, c'est une espèce de parodie des Muppets, des marionnettes. En fait, c'est un film avec des marionnettes, sauf que c'est un gros délire sexuel, en fait.
Oula.
Donc, en fait, les marionnettes sont des obsédés sexuels, en fait.
Ah ouais.
Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est clairement de la série B, quoi.
Oui, c'était avant Me Too, c'est normal.
Oui, non, puis c'est surtout qu'on peut aussi faire un film comme ça avec des marionnettes. C'était pour dire que dans tous les genres, c'est possible.
Ouais, c'est ça.
Et alors,
c'est l'esprit.
Tu parlais d'acteurs comme tu parlais de Seagal et tout, mais alors moi ça me fait penser à Stallone. Est-ce qu'on peut considérer que les Rambo,
le premier
peut-être,
le premier
qui est quand même un excellent film
et qu'il est vraiment très bon. Et je pense que c'est une série B, quoi.
Oui, c'est une série B, parce qu'il y a peu de moyens. De toute façon, sur le Rambo 1, il y a eu très très peu de moyens. Il y a eu aussi un jeu d'acteur de la part de Stallone, parce qu'on a beau dire et beau faire, parce qu'il a quand même un jeu d'acteur dans ce
particulièrement
film.
Particulièrement dans celui-là.
Il y avait
des bouts de chair partout. Ouais. C'est pas ma guerre, mon colonel.
Voilà. Alors ça va dans le deuxième, je crois, non?
Non, c'est dans le premier.
C'est le seul qui est bien, d'ailleurs.
Exact, il est excellent.
Et c'est un très bon film sur le traumatisme lié à la guerre.
Bien sûr. Tout à fait.
Oui, parce que ce qu'on peut dire, pardon, c'est que les films de série B, alors moins des films de série Z, mais ont quand même un sens, un message. Ils essayent de faire un bon film, les gars.
C'est ça. Quand même.
Ouais, carrément.
Donc au départ, il y a quand même une idée. Il y a quand même l'idée de faire passer, soit de divertir, soit de faire passer un message. Quoi.
Quand on n'a pas le pétrole, on a des idées.
Voilà. Et donc on bricole un truc. Donc effectivement, on peut dire le premier Rambo. Après, le problème, c'est que ce film a eu du succès et ça a engendré toute une série de films complètement patriotiques. Ouais, voilà. Et ce qui change le message.
Qui change le message.
Mais si on regarde sur la totalité des Rambo, le dernier qui est sorti, qui était vraiment
John Rambo.
Oui, mais le John Rambo reprend un petit peu le personnage vraiment. C'est un remake du premier. Et surtout, il le clôture aussi en même temps parce qu'enfin il rentre chez lui.
Ouais.
Voilà.
Carrément.
Donc c'est vrai que c'est fluctuant, on va dire.
Ouais, carrément. Est-ce que Rocky, le premier Rocky, du coup aussi, peut-être considéré comme.
Après, on peut faire une liste.
J'ai l'impression.
Dans les films de sport, moi je pense que oui, il y a aussi des séries B. Hein. Ouais. Des films qui n'avaient pas prévu. En fait, de devenir des succès.
Ouais, c'est ça.
Alors qu'ils, parce qu'ils ont un petit budget.
Si on reprend la
Rocky,
définition,
ouais, je pense.
Oui, mais si on reprend la définition qui a été donnée tout à l'heure sur ce qu'est un film de série B, Rocky rentre totalement là-dedans. Il faut pas oublier qu'il y avait peu de budget. Encore une fois, c'est Stallone qui a appuyé vraiment énormément pour faire le scénario. D'ailleurs, c'est lui qui l'a rédigé.
C'est lui qui a tout fait.
C'est lui qui a tout fait et qui a imposé aussi.
C'est son film.
C'est son film. C'est vraiment lui. Culte.
Film sympathique. Film sympathique. Non, mais c'est des films de série B. C'est des films super sympas.
On adore. On rigole, quoi. On rigole.
Et puis des grands. Alors puis ça nous a permis aussi de découvrir de grands réalisateurs. Parce que au départ, quand on n'a pas de moyens, finalement, pour se faire connaître, on essaye de faire quelque chose d'un peu original. C'est ce qu'on fait des gars comme James Cameron avec le premier Terminator. Voilà, c'est des gars comme John Carpenter, etc., qui se sont dit, de toute façon, moi, j'ai pas les moyens d'Hollywood, j'ai pas les gros studios, je vais faire quelque chose qui va marquer. Voilà, George Lucas, qui va marquer les esprits, Spielberg avec Les Dents de la Mer. Enfin, c'est le premier blockbuster, quand même.
Clairement.
Moi, je dirais que les deux premiers blockbusters, c'est Les Dents de la Mer et La Guerre des Étoiles, qui sont pas du tout prévus au départ pour être des succès.
Ouais.
Donc ça nous permet aussi de découvrir de grands réalisateurs, et parce que il faut bien se lancer à un moment donné, et puis. Se montrer, quoi.
Se montrer. Et le problème aussi, c'est vrai que nous, je pense que nous. Puisqu'on peut parler aussi, chaque nation a sa propre série B aussi, en même temps. C'est vrai que nous, quand on parle de série B en film français,
c'est des comédies.
Ouais, c'est des comédies, c'est des trucs vraiment.
On n'est pas bon, nous, en film d'horreur fantastique, on n'est pas terrible.
On n'est pas vraiment là-dessus. Hein. Le film de série B français, il n'est pas là-dessus.
C'est pour ça que je disais Mon Curé chez les nudistes.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, nous, ça va être quoi, les séries B françaises? Ça va être ça, des grosses comédies, bien franchouillardes, avec, Daniel Prévost.
Charlots, par exemple.
Les Charlots.
Les Bronzés, non?
Est-ce que
le premier, je sais pas. Ou
peut-être.
Les
Soudoués.
Classique.
Voilà, donc on va voir effectivement, les Soudoués.
À nous, les petites anglaises.
Oui, parce que tu veux dire, dans les Bronzés, c'est déjà une équipe qui est connue.
Ouais,
c'est déjà
du théâtre.
Ils font du théâtre. Ils ont déjà fait Le Père Noël et tu
un peu plus qualitatif.
Est-ce que, du coup, un truc comme La Cité de la Peur où les acteurs sont excellents, mais dans le projet
c'est un hommage, quoi.
Oui, c'est ça. C'est
comme Tarantino qui rend hommage aux séries. Ouais. Oui, c'est un hommage aux comédies françaises complètement décalées.
Ouais.
Et avec l'humour des nuls, avec les références.
Et aux films d'horreur aussi américains et ainsi de suite.
Avec petit budget. Le début de La Cité de la Peur, Red is Dead et tout ça, c'est carrément un hommage aux films d'horreur de série Z. Alors, c'est clair.
Carrément.
Meurs, pourriture communiste.
Chérie, ça va couper.
J'oublie, j'ai ton aspirateur, c'est affreux. C'est affreux.
Moi, j'ai un autre titre aussi, c'est Quelques messieurs trop tranquilles. Celui-là aussi, il est pas mal. Là, c'est un petit village, là, directement, avec des hippies.
Avec Paul Prébois.
Il y a Paul Prébois aussi. Je prête pas mon tracteur, parce qu'un tracteur, c'est personnel.
Voilà. Donc, dans les années 60, 70, 80. Il y en a eu pas mal en France de comédies, de voilà, de série B d'exploitation comme ça, pas cher.
Pas cher, et c'est vraiment pas du même niveau quand même que la série B américaine, quoi.
Bah, la série B américaine, c'est plus des films d'horreur, ouais. des films de science-fiction, d'action. Nous, on n'est pas tellement là-dedans, effectivement. Hein, on est plus sur la grosse comédie,
sur de la grosse comédie bien franchouillarde, bien grivoise.
Alors, ça peut être marrant.
Oui.
Par exemple, bon, les sous-doués. C'est vrai que ça nous a fait marrer. Même Prof, par exemple.
Bien sûr.
Nous a fait marrer.
Ah, mais il y avait du budget.
Mais il y avait du budget.
Ah ouais.
Il y avait des acteurs. Il y avait Patrick Bruel.
Ouais. Bah oui.
Non, mais tout ça pour dire que voilà, en France, on est plus sur ce créneau. En Espagne, Romain, on a Torrente.
Ouais. Alors ça, c'est pareil. Ça fait partie des séries classiques avec Santiago Segura. Et il joue un flic. C'est pas très Me Too d'ailleurs, c'est vraiment très...
Ah non, c'est beauf, hein.
C'est macho. C'est beauf de chez beauf, et pour qui est habité un peu là-bas, ou connaît un petit peu, voilà, c'est vraiment, ça fait partie... C'est le premier qui m'est venu, et toi tu l'as vu d'ailleurs avec...
Moi j'en ai vu un.
El brazo tonto de la ley,
si.
Qui est peut-être, je sais pas, moi je te dirais, franchement peut-être un des plus connus, ou
voire le plus connu, quoi.
Et que t'en dire, bah...
C'était la semaine du cinéma espagnol.
Ouais, c'est pour ça que tu l'as vu.
Oui.
Ah d'accord.
Est-ce qu'il y avait Ramon aussi, Jambon.
Ouais.
Bigas Luna.
Non, il me semble, tu connais, hein.
Ouais, mais est-ce qu'on le met dedans
pas. Peut-être pas, juste comédie, quoi.
Ouais.
Par contre, il me semble bien que les premiers Almodovar.
Ouais.
Ah bah ouais.
Il me semble que bon.
Ah bah c'est clair.
Outre le fait qu'il est un petit peu dans le porno au départ, mais
vite fait. Bah c'est il sort de la Movida, quoi.
Mais c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que ses premiers films.
Oui, c'est clair.
Petit moyen.
Faut bien débuter.
C'est pas le grand qu'on connaît après, mais il y a quelque chose déjà. Il y a une idée.
Oui, parce qu'aujourd'hui, il va plutôt faire des mélos, des films comme ça. C'est vrai qu'au départ, c'est carrément déjanté. Hein.
Ouais.
Moi, je me souviens plus comment il s'était. J'en avais vu un.
C'est complètement à l'image de la movida après.
C'est ça. La ley del deseo,
la loi du désir.
Ouais. Attache-moi peut-être déjà. Bon, il y a
le labyrinthe des passions.
Mais voilà, le labyrinthe des passions.
J'avais vu ça. Les filles aussi, Baum et les autres filles du quartier.
Ça fait très film, avec des titres qui laissent penser que c'est voilà. Vous parliez tout à l'heure, alors tu parlais du porno, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas à l'érotisme quand même.
Il y a toujours de l'érotisme.
Il y a des films érotiques de série B.
Avec beaucoup.
Des films érotiques de série B.
Tu parlais d'M6 tout à l'heure.
Ouais, voilà.
Si t'entends un saxo, tu sais que ça va mal tourner.
C'est ça.
Alors les gars, je voudrais qu'on parle des films de Quentin Tarantino.
Oh yes.
Parce que Quentin, c'est un grand fan, c'est un grand cinéphile, il connaît tous ses films, il connaît John Carpenter, il connaît tous ses films de série B, de série Z, et dans tous ses films, il rend hommage.
Ouais.
Que ce soit les films de gangsters, c'est-à-dire Reservoir Dogs et Pulp Fiction, c'est carrément un hommage à ces vieux films. Alors films noirs, mais aussi d'exploitation, Blaxploitation dans par exemple beaucoup de ses films. Et puis Kill Bill, on parlait des films de kung fu, film de sabre aussi, film de sabre aussi, hein, on en a pas parlé.
Ouais, film de sabre.
Parce que film de kung fu et film de sabre, hein, c'est deux styles, deux genres différents. Voilà.
De KPDP aussi.
KPDP, ouais. Boulevard de la Mort, c'est très clair. Il y a aussi Robert Rodriguez, qui est un pote de Tarantino, qui adore faire des films hommage aux séries B comme Machete. Voilà. Ou comme Une nuit en enfer. From Dusk Till Dawn.
Alors celui-là.
Mais en fait, Tarantino joue dedans. Je crois qu'il a fait une partie du scénario. Il a fait le scénario.
Oui, ils ont bossé ensemble.
C'est ça. Mais alors, c'est vrai que tu parlais de Reservoir Dogs, son premier. Il y a très très peu de moyens.
Ouais, c'est
fait.
Ça, exactement.
Il y a zéro moyen. C'est un petit huis clos. Enfin, il y a quelques scènes à l'extérieur.
Par contre, il y a tout le temps des références. Quoi.
C'est ça.
Tu sais, c'est des références même aux films japonais. Mais vraiment, hein.
C'est super théâtral.
Exactement.
Ouais, tu sens qu'il se nourrit.
Kurosawa, tout ça, tu penses. Enfin, moi, il y a plein de références.
Clairement.
Donc, Tarantino, lui, c'est vraiment le réalisateur post-moderne, c'est-à-dire qu'il va chercher partout des références pour créer ses plans, pour créer ses personnages, dans les images, dans la musique, dans les couleurs. Enfin, bon, bref.
Clairement.
C'est le petit génie du cinéma. Quoi.
Et même, je dirais, tu parlais de la musique, tu vois, même dans ses choix musicaux, il va pas prendre forcément il va souvent piocher dans la Motown. Des années 70, mais il va pas forcément prendre les tubes les plus connus. Voilà, tu parlais des phases B.
Oui.
Romain, il va plutôt chercher dans les phases B des anciens disques. Et ça donne des pépites. Du coup, les chansons deviennent cultes, quoi.
Par exemple, dans Jackie Brown, si vous, alors là, c'est carrément un hommage à la Blaxploitation, parce qu'il y a Pam Grier, qui était une actrice de films de Blaxploitation. Donc, Blaxploitation, dans les années 70, c'est des films réalisés par des réalisateurs noirs américains, avec des acteurs noirs américains pour la communauté noire américaine.
Ouais.
Bon, ça a influencé énormément de monde, et en particulier Quentin Tarantino, qui se prend pour un noir américain, quasiment. Et là, c'est un hommage, et comme tu parlais de musique, écoutez la BO. La BO de
Jackie Brown.
Jackie Brown, c'est un chef-d'œuvre.
Elle est incroyable.
Ouais. Et tu sais, moi, après, ça me fait penser aussi. Alors, je sais pas si vous allez être d'accord ou pas. C'est justement ça qui est intéressant. Dupieux au tout début de carrière, en fait. On parlait de Rubber et des trucs comme ça, tu vois. Ce genre de film-là, ça fait un peu aussi penser à j'ai une idée un peu originale, pas forcément un gros budget.
Ah bah c'est clair.
Et justement, je tire sur ce filon-là, un petit peu des choses américaines au départ.
Rubber, c'est clair. Rubber, c'est l'histoire d'apneu qui tue.
Ouais, alors là, on est sur la série Z, quoi, carrément, ouais. Quoi. Ouais, c'est incroyable.
Non, mais c'est ça. Ouais, t'as raison. J'avais pas pensé à Quentin Dupieux, qui est peut-être le seul Français à réussir à faire des films de série B ou Z de qualité, quoi.
Ouais. Complètement. Ou le Dain aussi, ça me fait un peu penser à, tu vois, à cette idée-là de, bon, là, il y a du budget, mais il y a l'idée de, avec pas forcément grand-chose, mais une idée un peu.
En fait, lui, il a une idée, un acteur, il fait un film. Hein.
C'est ça. Film très court, complètement décalé.
Là, on a vu on n'avait pas vu avec Florence son dernier film, le deuxième acte. Donc on l'a vu en VOD là.
Ouais.
Et effectivement c'est ça en fait. Il a une idée, quatre acteurs, il fait un film. C'est génial parce que en plus moi j'aime bien parce que ces films durent 1h15, 1h20, c'est nickel.
Ouais.
C'est mieux que les 2h30 de Gladiator 2.
Bah je sais pas, je l'ai pas vu. Mais...
pas encore vu.
J'ai pas encore vu. Les critiques sont mitigées.
Ouais.
Les bonnes et des mauvaises.
Et alors pour terminer avec Tarantino, c'est vrai que même son dernier film, Once Upon a Time in Hollywood, il y a vraiment un.
J'ai adoré.
T'as adoré, hein. Et il y a vraiment un hommage aux séries B western, en fait. Hein,
ah ouais, carrément. Et aux séries télé, on en a pas parlé.
Ouais.
Il y a aussi des séries télé. Seb, tu voulais dire?
Bah, je voulais dire aussi en même temps, parce que là, on parlait du bon, la butte et le truand, puisqu'on a eu la musique. Il y a eu une sorte de remake aussi qui avait été fait dans les années 2008 par Kim Ji-woon. Là, on part
pas l'éducateur.
Sur l'asiatique. C'est le bon, la brute et le cinglé.
Ah oui.
Donc voilà, un gros budget, surtout en sang de poulet hein, quand même. Parce que je l'ai vu. La jeune fille fait un message sur un bout de tissu, donc elle n'a pas de crayon, donc qu'est-ce qu'elle utilise? Elle utilise son doigt qu'elle va couper. Là par contre, elle est très très hémophile. Hein. Ça coule de tous les côtés.
Elle avait beaucoup à écrire.
Non, c'était juste help. Donc,
ah oui, d'accord.
Donc voilà, c'est
vrai
aussi...
qu'il y a aussi des films de série B au Japon, en Corée. Et en Italie. On n'a pas parlé de Dario Argento, Lucio Fulci, etc.
Et dans les séries Z qu'on a un peu moins évoquées que les séries B, il y a aussi beaucoup de films qui sont un peu des imitations de films connus aussi. C'est souvent ça en fait. Ça reprend une franchise. Il existe d'ailleurs The Terminator ou je sais pas quoi.
Il y en a plein. Dans les films de zombies, il y en a 50 000. Vraiment tout fauché. Ou même des massacres à la tronçonneuse tout pourri. Il y en a plein.
C'est ça.
Donc,
exact. Mais alors, tu parlais de Dario Argento. Il y a pas longtemps, j'ai vu Suspiria. Je savais pas qu'il est devenu un film culte. Il me semble qu'à la base, c'était un film série B.
C'est des giallo. En fait, en Italie, ils appellent ça des giallo. Alors, c'est pas des nanars ou des séries B. C'est des films un peu décalés. C'est-à-dire des films policiers et en même temps fantastiques, quoi. En gros, pour simplifier, quoi. Ouais. Un peu psychédélique avec visuellement.
Complètement psyché, quoi. Mais bien perché.
Tu vois, dans les trucs, il y a le paranormal entity au lieu de. Tu vois, il y a plein de trucs comme ça où ils reprennent dans les séries Z des trucs qui détournent The Terminators. Et surtout, je sais pas si vous avez déjà des connaissances, en tout cas, cette fascination pour tous les Sharknado, pour tous
carrément.
Où ils ont mis une suite Anaconda.
C'est des requins qui volent, hein.
Ah oui.
Okay. C'est souvent des animaux. Anaconda, hein. C'est terrible aussi.
C'est
un gros serpent.
C'est ça. Et il y a au moins 3-4 films. Et je me dis, mais qui regarde ça au point que les franchises refont un 2, un 3, un 4, un 5?
Ça coûte pas cher, quoi. Ça coûte pas cher à produire. Voilà. Surtout aujourd'hui avec le numérique. Alors là, tu peux faire tout ce que tu veux. Seb, parle-nous d'Iron Sky quand même.
Ah, Iron Sky. Alors là, c'est une grande découverte quand même.
De quoi s'agit-il?
Alors, de quoi s'agit-il?
Et on remercie Seb.
Ah ouais. Alors là, merci. Merci
Seb. C'est toi qui nous en a parlé.
C'est toi qui nous en a parlé.
Parce que moi, j'ai halluciné.
Il y a une vie avant et après.
Il y a vraiment une ville. Alors, une vie et une ville aussi en même temps. Donc, pour faire très simple, nous sommes en 2018. La Terre doit faire face à une tentative d'invasion. Invasion menée par les nazis qui ont trouvé refuge depuis 1945 sur la face cachée de la Lune.
Ouais, ils sont pas morts. En Argentine et
ils
sont partis plus loin.
Il y en a.
Moi j'adore surtout la scène d'entrée où on voit donc le module lunaire des années 60 qui atterrit sur la Lune et deux astronautes qui sont là. Bon, alors je me mets comment pour faire la photo là, parce qu'il faut qu'on redore notre blason un petit peu. Et puis d'un seul coup, boum, il disparaît. Parce que bien sûr, les nazis ne sont pas d'accord pour que les Américains arrivent sur la Lune, comme on peut dire. Et là, on voit la différence technique et on se dit oui, effectivement, là, on est vraiment dans une série B parce que au niveau costume, c'est pas possible. Hein. Déjà, l'astronaute, la tenue de l'astronaute, on fait ok, ça c'est pas mal. Ils ont trouvé un petit bocal là qui était pas mal. Et puis bon, donc après la tenue des nazis, ouais, ils ont eu un prix spécial sur les masques à oxygène. C'est du masque à oxygène ordinaire. Donc voilà, bon bah ça suffit hein, finalement pour vivre sur le sol lunaire. Et puis donc ils capturent l'un des deux astronautes et puis l'aventure commence. Bien sûr, l'astronaute c'est un personnage noir. Donc alors là, ah bah oui, choc. Là ils en peuvent plus. Donc ils décident de trouver un traitement pour faire ressortir sa couleur blanche.
Ah d'accord,
carrément.
Le dépigmenté.
Ouais. Non mais pas que le dépigmenté, hein, c'est aussi dans le cerveau. Normalement, ça doit agir sur le cerveau.
Ah ouais, super.
Donc, ne raconte pas tout le film.
Non, je raconte pas tout le film. Et puis donc après, tout l'intrigue va être ce personnage, ce pauvre acteur, quoi, ce pauvre personnage qui se fait torturer, va vouloir retrouver son identité, sa propre identité. Et donc les nazis arrivent aussi pour essayer de conquérir New York. Et là, c'est le drame.
Il faut dire que c'est un film finlandais. Non, c'est dans le 2.
Les dinosaures, c'est dans le 2. Alors, je devais le regarder ce week-end, mais j'ai pas eu le temps.
Alors, il faut dire que c'est un film finlandais.
Oui.
Avec des acteurs allemands et d'autres.
Ouais.
Et il faut absolument voir Iron Sky.
Alors, c'est pas que finlandais, hein. Attention, c'est finlandais, allemand et australien. Il y a l'Australie, ma pauvre Lucette, aussi là-dedans.
Qu'est-ce qu'elle vient faire là, l'Australie?
On sait pas.
Personne ne sait.
On ne sait pas.
Vaut mieux peut-être pas savoir.
Là, il y a une ref. Hein.
Ah, bah honnêtement.
Donc voilà, ça, c'est le dernier film de série B à voir, c'est Iron Sky.
La seule chose que l'on peut dire, c'est quand même les méchants perdent à la fin. La morale est sauf.
C'est des nazis, quoi. Mais il y a un 2.
Ouais.
Donc, quand même, ils reviennent.
Oui.
Avec des dinosaures.
Ils reviennent équipés. Ils reviennent après avec des dinosaures.
Les gars, on fait une pause musicale, puis après, on parle de l'actualité, parce que je crois qu'on a fait le tour des séries
BZ.
Je
crois aussi.
On a fait un tour, je pense.
On écoute Little Green Bag dans Bande Geek Mafia.
Sur Radio G100, après 5.
La radio qui fait le bon.
Et voilà, c'était George Baker Selection que vous pouvez entendre dans le Reservoir Dogs de Tarantino. Alors, on a terminé sur les séries B. Regardez Cannibal Holocaust. C'est
vrai. Oui, voilà.
Si vous voulez être traumatisé.
Ah oui, un bon traumatisme.
Et on parle de l'actualité, bien sûr, de tout ce qu'on a vu en termes de séries, de pièces de théâtre, de films, de BD, etc. Romain, tu veux commencer avec Dead to Me.
Ouais, je l'avais peut-être évoqué la dernière fois. C'est une série qui gagne à être connue. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. C'est des épisodes d'une demi-heure. Il y a quand même 4 saisons, me semble-t-il. Vraiment sympa. Vous connaissez l'actrice principale qui est Christina Applegate.
Ah oui.
Et alors l'autre actrice qui est excellente dedans aussi, j'ai oublié son nom, mais vous l'avez vu dans Green Book puisqu'elle joue la femme de Viggo Mortensen. Et c'est une série sur à voir, sur l'amitié, mais c'est assez décalé. Ça nous prend, il y a souvent pas mal de contre-pieds. Les acteurs sont bons. Et moi j'ai vraiment passé un très bon moment. 4 saisons. Sinon, 2 artistes à écouter en musique. L'autre actrice, c'est Linda Cardellini, qui joue Judy L dedans.
Oui, très je vois qui c'est.
Et alors, 2 artistes, c'est une chanteuse mexicano-américaine qui répond au pseudonyme de Ladonia. Très sympa à écouter. Vraiment. Nada me pertenece pour ceux qui veulent écouter. Et une autre artiste qui est argentine et qui fait du hip-hop, 40 ans, donc c'est Sara Ebe, H-E-B-E.
D'accord.
Vraiment, les deux sont très très bien. Écoutez Tube que quemar.
Merci Romain.
Je vous en prie.
Seb, tu voulais dire quelque chose?
Oui, juste moi, un petit morceau musical. Si vous aimez bien rigoler, vous aimez bien le métal, moi je vous conseille le dernier album de Ultra Vomit. Hein.
Ah oui.
Le pouvoir
de la puissance.
La puissance du pouvoir.
Pardon.
Mettons dans là. Alors là, vous rigolez tout au long.
Merci.
Voilà.
Pablo?
Alors moi j'ai une petite série qui s'appelle Headhunters.
Chasseur de tête
sur Arte. Alors c'est une série qui part au départ avec un personnage, Roger Brown, qui est un faussaire, un escroc, un mec franchement antipathique au possible, avec ses petits costumes taillés sur mesure italien et tout. Enfin franchement une tête à claque. et alors vraiment, mais alors bizarrement, tu vas commencer à t'attacher à ce bonhomme parce qu'en fait, ok, à la base c'est un mec un peu pourri, mais qui va commencer à rencontrer des gens encore plus pourris qu'eux, et tu te demandes vraiment qui sont les chasseurs de tête. Alors parce que lui, il va être embauché, si vous voulez, c'est une série norvégienne, qui va être embauché dans une grande entreprise à Oslo pour trouver, chasser des têtes, c'est-à-dire vraiment trouver des patrons d'entreprise. Mais en fin de compte, il est confronté à des gens qui sont vraiment vraiment très violents,
très méchants
vraiment très très méchants.
C'est vrai.
Et le truc, c'est que ce personnage, tu l'aimes bien au bout du compte.
Oui, on peut s'attacher, c'est clair.
Voilà.
Même si au départ, bon,
parce qu'il a une grande intelligence.
Pensez à Walter White.
Et surtout, l'amour va le changer, mais je n'en dis pas plus.
Parce que j'ai commencé à regarder, mais j'ai pas vu tous les épisodes, donc faut pas divulgâcher.
Non,
pas trop, en tout cas.
Point trop d'infos.
Et toi, mon cher Seb?
Alors moi, j'ai vu une pièce de théâtre au Quai qui s'appelle Le portrait de l'artiste après sa mort. C'était génial, vraiment, c'était excellent. C'est Martial Di Fonzobo qui est le directeur du Quai, qui joue dans la pièce, en fait, qui a le rôle principal de cette pièce, qui raconte, qui parle des desaparecidos.
Ah ouais, super.
C'est-à-dire des gens qui ont disparu pendant la dictature argentine, dans les fins des années 70, début des années 80. Et en plus, il y a un lien avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, avec la déportation des juifs aussi, mais ça parle surtout de la mémoire et en fait de comment raconter cette histoire quand on n'a pas tous les éléments. Quelquefois on est obligé aussi d'inventer, finalement, pour boucher les trous de l'histoire, d'inventer certaines parties. Et donc c'est intéressant, parce que même en tant qu'historien ou professeur d'histoire par exemple, ou de philosophie, c'est qu'est-ce que la vérité, en fait? C'est ça la question. Parce qu'on a des éléments, on a des ressources, on a des sources, on a des traces, mais quelquefois, il y a des creux. Ces gens ont disparu. Comment sont-ils morts? Est-ce qu'ils se sont cachés? Est-ce qu'ils ont résisté? C'est passionnant, c'est hyper. De plus, le dispositif scénique est génial parce que à la fin de la pièce, le public est invité à venir sur scène, à circuler dans le décor pour comprendre en fait un petit peu l'atmosphère, enfin l'ambiance de l'époque, etc. Et la pièce continue alors que le public est sur scène. Enfin vraiment, je vous le conseille.
Immersif.
Immersif. Ouais, très exactement. C'est le terme parfait, Romain. Et donc je vous le conseille parce que ça passe actuellement au mois de novembre là, ok, mais ça va repasser au printemps.
Ah.
Ça revient au printemps. Je pense vers le mois d'avril, mai. Donc je vous conseille vivement de réserver vos places pour le portrait de l'artiste après sa mort.
Et la vérité est ailleurs.
Alors c'est pas du tout de la science-fiction. Hein.
Malheureusement.
C'est plus un travail de mémoire, mais effectivement, c'est chouette quoi. Enfin moi honnêtement, hein, j'étais bluffé. Hein,
vraiment. Ouais, mais carrément. Ça m'étonne pas. Et d'ailleurs dans OK, ils ont toute une programmation où il y a régulièrement des pièces en espagnol, surtitrées.
Alors là c'est pas en espagnol. Hein,
voilà, là elle est pas en espagnol, mais sinon voilà argentine, chilienne et tout, et il y a des trucs hyper intéressants.
Merci les gars, on est obligé de vous laisser. C'était Bande Geek Mafia, votre émission Infoculture. Un mercredi sur deux.
On vous embrasse bien fort.
On vous embrasse. Bonne semaine.
À dans 15 jours. À dans 15 jours.
Ciao, ciao. Be a woman soon. I love you so much, can't come.